Chapitre 22. Yuna et son équipe ont eu une réunion avec le parquet ce matin pour faire le point sur l'avancée de l'enquête. Ils ont interrogé les proches de la deuxième victime, ses amis, ses collègues, les participants au salon professionnel et le personnel de l'hôtel. Les résultats du laboratoire, les rapports d'autopsie et les analyses techniques affluent, mais aucun progrès significatif n'est réalisé. Il y a deux victimes principales, et un témoin assassiné. Mais aucun lien entre les trois, ce qui a poussé Yuna à dire ce que personne ne voulait entendre. Bientôt, on aura une nouvelle victime. Yuna est maintenant seule dans le bureau d'enquête à scruter les photos sur le mur et à réfléchir aux similitudes et aux différences entre les deux meurtres planifiés. Les deux victimes appartenaient à la classe moyenne, étaient d'âge moyen, étaient mariées et avaient des enfants. Les parties du corps de Josef Lindgren sont dispersées un peu partout dans la caravane, tandis que Nils Nordlund est agenouillé dans l'eau avec sa tête posée devant lui sur la glace. La première victime visitait régulièrement des plateformes légales proposant du contenu pornographique gratuit et a participé à trois reprises à une discussion sur l'achat de services sexuels sur Flashback où on lui a recommandé de se tourner vers le Darknet. Il a téléchargé et installé le logiciel Tor au printemps dernier, mais il est impossible de savoir s'il a effectivement procédé à des achats de nature sexuelle. La deuxième victime, Nils Nordlund, n'a laissé aucune trace d'activité pornographique sur ses deux ordinateurs et n'utilisait aucun logiciel de cryptage. Cependant, il est impossible d'avoir une vue d'ensemble car son portable a disparu et n'émet aucun signal. Il a probablement été détruit ou désactivé. La porte s'ouvre sur Saga. Elle vient s'asseoir en face de Yuna, s'appuie contre le dossier de la chaise et croise son regard. « Je ne devrais pas être ici, » dit-elle doucement. « Mais j'aurais vraiment besoin de ton aide. Tu te débrouilles généralement très bien tout seul. » Yuna se dit que s'il parvient à résoudre ses meurtres, Noah sera soulagé, tiendra une conférence de presse et ils pourront ensuite s'asseoir pour discuter du recrutement de Saga. Elle est la seule partenaire sensée pour Yuna, tout le monde le sait, et retourner sur le terrain lui ferait énormément de bien. Son beau visage, à la fois pâle et marqué, laisse entrevoir une lueur de détresse. Ses cheveux, qui descendaient autrefois jusqu'à sa taille et portaient des bandes colorées, sont maintenant brossés et attachés en une queue de cheval serrée. Saga travaille à mi-temps dans les bureaux de l'unité de renseignement, mais elle aimerait réintégrer la section opérationnelle de la NOA. Elle en a parlé au responsable des ressources humaines. Il l'a écoutée, a pris des notes, et il lui a demandé si elle était prête pour ça, si elle pensait pouvoir y arriver. « Oui », a-t-elle répondu en souriant. « Je ne pense pas », a-t-il rétorqué. Elle a failli le remercier pour le temps qu'il lui avait accordé, se lever, repousser sa chaise contre la table et quitter la pièce. Mais à la place, quatre diplômes encadrés ont volé à travers la pièce et elle s'est retrouvée avec 8 points de suture aux jointures et une sanction disciplinaire sous forme de réduction salariale. « Je ne veux pas te causer de problème, » dit Yuna. « Mais tu ne peux pas t'empêcher de réagir dès que tu entends quelqu'un penser à voix haute. » Il lui résume brièvement tous les détails de l'enquête tandis qu'elle se lève pour regarder les photos. « Ça me fait penser aux châtiments médiévaux. » dit-elle après qu'il s'est tu. Tu sais, comme le démembrement par 4 chevaux, l'éventration. Il y a quoi d'autre? Les membres brisés, les mutilations? Des châtiments corporels, acquiesce Yuna. On appelait ça des peines de mort pour crimes aggravés, je crois. Quels seraient les crimes dans ce cas? Le téléphone de Yuna sonne. L'appel vient d'Anietan Komo. Il explique rapidement à Saga qu'il doit répondre. « C'était agréable d'être un tout petit peu impliqué, » sourit-elle avant de quitter la pièce. Yuna prend le téléphone sur la table, répond et se place près de la fenêtre pour regarder les arbres nus du parc au loin. Un homme barbu se tient devant une poubelle avec un sac poubelle à moitié plein et essaie d'extraire du coca congelé d'une canette. « Je veux que vous sachiez que Bernard et moi essayons de garder une trace de tout ce qu'on traverse en ce moment. Peut-être pour écrire un livre sur les meurtres et le rôle de Hugo dans l'enquête. expliqua Nieta. Je m'en doutais quand je vous ai vu lors de la conférence de presse. Nous pensons avoir une perspective unique grâce à Hugo.
Dites-lui qu'il est au courant,
dit Bernard en arrière-plan. Je ne sais pas si vous avez entendu, Bernard, dit-elle, mais Hugo est d'accord. Il a promis d'aider autant qu'il peut. Et nous pensons pouvoir faire en sorte qu'il se souvienne davantage.
Si c'est le cas, s'il se souvient de quelque chose d'autre, je veux que vous me préveniez immédiatement, dit Yuna.
Bien sûr. Le livre, c'est une chose, mais nous ne nous sentirons pas en sécurité tant que tout ça ne sera pas terminé.
Je comprends, répond Yuna tout en regardant les photos sur le mur.
Hugo nous a raconté que la victime dans la caravane avait un cercle blanc autour de son doigt bronzé, là où se trouvait sa bague.
Un premier détail intéressant, acquiesce Yuna.
Je me demandais si on avait volé quelque chose à la victime.
Nous sommes tenus à une stricte confidentialité.
Mais vous savez, nous n'écrirons rien tant que l'affaire ne sera pas complètement résolue, dit-elle.
Je vous fais confiance. Je sais que ça ne fuitera pas dans les médias, dit Yuna. Mais il semble que les deux victimes aient été dépouillées de la plupart de leurs biens de valeur.
Mais ça ne peut pas être le mobile, n'est-ce pas?
Qui sait?
Yuna retourne à sa place, s'assied, et s'appuie contre le dossier grinçant de sa chaise.
J'ai une idée que je voudrais partager avec vous, poursuit-il. Vous n'avez pas besoin de répondre tout de suite, mais écoutez-moi.
D'accord, dit-elle prudemment.
Mon département fait souvent appel à un médecin expert en troubles de stress post-traumatique et en traumatismes psychologiques. Et il utilise parfois l'hypnose pour aider les victimes et les témoins à guérir et à se souvenir.
Vraiment?
Oui.
Mais si Hugo avouait quelque chose, je sais pas, quelque chose d'illégal sous hypnose,
demande Bernard en arrière-plan.
Je comprends ce que vous voulez dire, mais ça ne pourrait pas être utilisé contre lui devant un tribunal. Ça n'a aucune valeur probante. En revanche, ça pourrait permettre une avancée dans l'enquête.
Nous allons réfléchir à ça et en discuter avec Hugo, dit Bernard près du téléphone.
Merci.